7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à Thiès, au Sénégal, avec les étudiants de l'université. Salut les voisins et les voisines. Et ça nous fait chaud au cœur d'être accueillis par les étudiants, aussi par toutes les autorités de l'université qui ont remarquablement organisé cet événement. On est dans le grand auditorium de Thiès. Thiès, l'université de Thiès, c'est une université, je dirais, à taille humaine, avec près de 5000 étudiants à 70 km de Dakar, ouverte il y a plus de 10 ans pour désengorger la pléthorique université Charanta Diop. Mais ici, comme partout en Afrique, les étudiants finalement se posent les mêmes questions. Que faire après son diplôme? Chercher du travail ou entreprendre? Le diplôme a-t-il une vraie valeur sur le marché de l'emploi? Et puis, comment valoriser aussi ses propres compétences quand on a 21, 22 ans, 25 ans? C'est l'occasion, les étudiants, de dialoguer avec nos invités. On a un représentant du principal incubateur à Dakar. Bonjour, c'est Nargueil.
Bonjour Emmanuel.
Le CETIC accompagne de très jeunes entreprises dans tous les domaines et symbolise vraiment la nouvelle tech version ouest africaine. Vous allez pouvoir, Ousseynou Nargueil, répondre à toutes les questions des jeunes qui ont des rêves, qui ne savent pas forcément par où commencer aussi pour entreprendre. Je sais que vous allez régulièrement à la rencontre des jeunes.
Avec plaisir, oui, nous faisons cela. Nous allons à leur rencontre pour sourcer leurs projets, pour les accompagner dans leurs idées de solutions innovantes.
C'est ça. Et vous dites souvent, les jeunes ont un talent fou, mais il leur manque la méthode.
Il y a de ça. Il leur manque peut-être pas tellement la méthode, mais le fait de ne pas trop embrasser et donc de mal étreindre. Peut-être que souvent, il faut les amener à faire un focus sur un produit particulier de leur éventail de possibilités et qui se consacre à ça, qui lui donne vraiment la taille critique et la taille sur le marché potentiel.
Alors aujourd'hui, on va bien embrasser et bien étreindre.
D'accord.
Également avec nous, Ariel Kitio. Bonjour Ariel Kitio.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes camerounaise, vous êtes de passage au Sénégal à l'occasion de la journée de la femme digitale. Vous êtes fondatrice de la start-up Casty, qui est éditeur de logiciels éducatifs pour apprendre le codage dans différentes langues locales. C'est très innovant. Et vous êtes en pleine levée de fonds, d'ailleurs, en ce moment. Et vous êtes aussi doctorante en génie logiciel à l'université de Yaoundé 1, c'est bien cela ?
C'est exactement ça.
Mame Kafassal, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sénégalaise, vous êtes coach en développement personnel et vous avez fondé votre propre cabinet, Kaizen, après avoir travaillé dans une société de conseil à Dakar et vous accompagnez des entrepreneurs et des cadres moins habitués au dialogue avec les étudiants.
À mes débuts, oui, je travaille beaucoup avec les étudiants et c'est toujours un plaisir en fait d'être en face des étudiants pour échanger, les motiver à faire ce qu'ils ont envie de faire.
Mais tout de suite, je voudrais donner la parole à Madame le recteur qui nous accueille dans son université. Ramatoulaye Diagne Beng, vous êtes à la tête de cette université depuis 18 mois maintenant. Vous êtes aussi la première femme rectrice du Sénégal. Alors chez nous, on dit rectrice. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, madame le recteur.
Non, je n'ai rien contre le mot rectrice. Mais comme c'est la première fois, on a voulu que tout le monde comprenne que les rectrices ne sont pas des recteurs à part, mais des recteurs à part entière. C'est pour cela. Après, on dira rectrice, il n'y aura pas de problème.
Quand il y aura la parité à la tête des universités sénégalaises ?
Peut-être même avant. Merci beaucoup.
Madame Diagne Beng, vous avez une longue carrière d'universitaire. Vous avez vu arriver les filles en masse dans les universités sénégalaises à la faveur de la décentralisation et de la construction de nouveaux campus. Quel est votre regard sur cette évolution ?
Un regard tout à fait positif. Vous savez que cette année, par exemple, au bac, nous avons presque 51% de candidates contre 49% de candidats. Je crois qu'une politique nationale de promotion des filles à l'école, dans l'enseignement supérieur, est en train de porter ses fruits. Et si vous le permettez, je pourrais vous dire qu'à l'université de Thiès, nous avons à peu près 39% cette année de filles. L'université que je vais vous présenter en 30 secondes, en vous disant que c'est une belle université constituée de 4 grands pôles, un pôle de sciences agronomiques, un pôle de sciences de la santé, un pôle de sciences économiques et sociales et un pôle de sciences et technologies. Et je voudrais une ovation pour une jeune fille, justement, qui a représenté le Sénégal à Kigali lors du concours de JIC Africa il y a quelques jours. Elle est là, Madame Deifa Toufal.
Voilà, je crois Deifa Toufal qui a été élue Miss Geek Sénégal et qui est arrivée troisième en finale à Kigali au Rwanda.
Tout à fait. Donc je crois que notre université montre que les filles ont de moins en moins peur d'aller vers les STEM, d'aller vers les sciences, de faire de longues études également. Et elles sont, à l'image d'Deifa Toufal, en train de jouer le rôle dans cette révolution du numérique qui est en train de reconfigurer le système de l'enseignement supérieur de notre pays.
Merci, merci à vous, Madame le Recteur. On va vous laisser maintenant retourner à vos occupations parce qu'on est en période d'examen et que ce sont toujours des emplois du temps très tendus. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis.
Merci à vous et pour votre visite. Merci infiniment.
Merci. Alors maintenant, place au dialogue avec les étudiants et les coachs.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Alors, j'aimerais bien sûr que vous expliquiez les coachs là, qui vont jouer le rôle de coach. Ariel Kitio, déjà. Donc, vous venez du Cameroun, vous êtes éditeur de logiciels éducatifs. Vous êtes parti d'un constat, finalement, sur le continent africain pour fonder votre start-up, Ariel.
Ma carrière dans l'informatique a commencé par un heureux accident, mon plus bel échec que je revendique pleinement. J'ai échoué le concours de Polytechnique après mon bac. Et donc, quand j'ai eu cet échec, ça m'a bouleversée, je me suis remise en question. Je suis donc arrivée à la fac et puis le département d'informatique était le seul département qui faisait la sélection. Donc, je me suis dit, Seigneur Dieu, permets-moi de passer ce concours-là. J'ai eu la sélection du département d'informatique et très vite, l'appétit est venu en mangeant parce que je me rappelle du premier code que j'avais écrit. J'avais écrit un logiciel qui permettait de conjuguer les verbes. Donc, c'est-à-dire, je donne un verbe du premier groupe et mon logiciel arrive à le conjuguer correctement. Je me sentais un peu magicienne et je me suis dit, bon, je peux créer des choses avec l'informatique. Donc, j'étais très enthousiaste. Mais les filles de ma filière étaient un peu différentes. Quand on donnait un projet, elles disaient, bon, les gars, je veux juste faire le rapport. S'il vous plaît, vous voulez manger quoi? On va préparer pendant que vous serez en train de coder. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Et j'étais bizarre pour elles. Elles étaient surtout bizarres pour moi. Donc, j'ai commencé à rejoindre des communautés comme Google Developer Group, comme Women Tech Makers, je ne sais pas si vous les avez ici. Donc, ce sont des communautés qui avaient pour objectif d'inciter davantage les femmes et les jeunes filles à s'intéresser aux technologies. Mais très vite là-bas, je me suis rendu compte qu'on traitait le mal aux feuilles et pas à la racine. Parce que c'est depuis le primaire, c'est depuis le secondaire qu'elle n'aimait pas les mathématiques, qu'elle n'aimait pas l'informatique, qu'elle n'aimait pas tout ce qui était technique. Donc, on s'est dit, on va revenir au primaire et au secondaire et infuser aux jeunes filles dès leur plus bas âge l'amour de la science et la passion de la technologie. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé à développer des curricula, des logiciels. Et aujourd'hui, on a formé plus de 6500 enfants avec 60% de jeunes filles sur le Cameroun et sur la RDC et bientôt au Sénégal, je l'espère. On est revenu vers les écoles primaires et on a développé des curricula qui les poussent à voir la technologie, pas comme une matière à l'école, mais comme un outil de la vie de tous les jours.
Le constat, c'est qu'il faut absolument alphabétiser sur le numérique, sur le continent africain, en incluant bien sûr les filles. Mais il y a aussi une autre idée géniale dans KISTI, c'est les langues locales.
Absolument, parce que au départ, j'ai également commencé à faire des compétitions où j'étais mentor de compétitions internationales. Mais bizarrement, les premiers venaient généralement du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Kenya, pour une simple raison, parce que les logiciels et les programmes étaient en anglais. Donc, pendant que l'enfant du Cameroun et la RCA prenaient du temps à comprendre ce qu'on demandait, à le résoudre et puis à retranscrire dans une autre langue, il y avait un gap. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des logiciels, justement, donc, qui sont adaptés à la langue de chaque enfant, qui lui permet d'être à égale position qu'un enfant de par le monde, de pouvoir avoir accès aux ressources éducatives de qualité, notamment dans les nouvelles technologies.
Mame Kafassal, vous êtes au départ vraiment un produit de l'université sénégalaise.
Oui, j'ai fait mes études à l'université Cheikh Diop de Dakar, même si après je suis partie à Paris pour faire un MBA. En fait, moi, j'ai eu la chance de commencer à entreprendre quand j'étais à l'université, en année de licence. Un peu comme les étudiants qui sont aujourd'hui dans cette salle, ils se posent la question, après mon diplôme, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est la question que je me posais. Par chance, j'ai assisté à une conférence où j'ai rencontré une personne extraordinaire. C'était un coach aussi. Il avait créé son cabinet à l'âge de 22 ans. Il avait commencé à travailler avec la Banque mondiale et tout. Il nous a parlé de son parcours, un peu ce que vient de faire Ariel. J'avais le même âge. Je me suis dit, mais si lui, il a pu le faire, pourquoi pas moi? Donc après la conférence, je me suis approchée de lui. Je lui ai dit, je veux faire comme vous, mais après, je ne sais pas par où commencer. C'est vrai que j'ai eu un bac G, j'ai fait l'économie, la gestion, mais en matière de création d'entreprise, je pense que j'ai énormément de choses encore à apprendre. Est-ce que vous pouvez être mon mentor? Donc c'est comme ça que ça a commencé. Il a commencé à me coacher, à me suivre, à m'accompagner, jusqu'à ce que je crée ma première entreprise. Et deux ans après, voilà, comme disait tout à l'heure Ariel, ce fut mon plus bel échec. Et après, lui, il m'a pris sous son aile. Il a fait de moi, en fait, un associé dans son cabinet. Et j'étais la représentante à Dakar. Et c'est comme ça que, voilà, après, j'ai pu reprendre carrément, en fait, le goût entrepreneurial.
C'est ça, vous avez remonté la pente en travaillant dans un cabinet qui existait déjà, avec des méthodes de travail.
Voilà, c'était pour me faciliter, en fait, la tâche. Parce que quand je me suis cassé les dents, j'ai dit, coach, je n'en peux plus, en fait.
Qu'est-ce que vous avez appris de l'échec?
Moi, je pense que nos plus belles leçons, en fait, on les apprend à travers l'échec. Je me rappelle, mon coach m'avait dit, ce que je te souhaite le plus dans la vie, c'est d'échouer encore et encore.
Waouh!
Je ne sais pas dans la salle si aujourd'hui je leur dis ce que je vous souhaite, c'est d'échouer encore et encore, ce qu'ils vont dire. Mais après moi, j'ai été vraiment choquée d'entendre ça. Mais c'est à travers les échecs, en fait, que j'ai pu apprendre et que j'ai pu me développer.
À condition de savoir tirer les leçons de son échec et de ne pas l'enfouir sous son oreiller. Ousseynou Narguey, vous avez une riche carrière.
Je voulais citer Winston Churchill, qui a été premier ministre emblématique de Grande-Bretagne, qui était sorti de la politique avant qu'on l'y ramène pour le remettre au 10 Downing Street, et qui disait « La seule réussite, c'est de voguer d'échec en échec tout en gardant le sourire ». Donc vraiment, je voulais le citer. Dans le milieu où je suis, celui des incubateurs, nous tenons l'échec comme une composante essentielle du parcours de l'entrepreneuriat. Récemment, un de nos partenaires, qui est la fondation Friedrich Naumann pour la liberté, une fondation allemande à Dakar, a fait, bon, le nom est un peu, j'allais dire, provocateur, ils ont fait les fuck-up nights. Et les fuck-up nights, les gens venaient pour parler de leurs échecs et des leçons qu'on pouvait retirer de ces échecs-là. Donc je crois que l'échec est constitutif du processus de maturation de l'entrepreneur.
Place maintenant au dialogue avec les étudiants. Alors on va faire circuler le micro dans la salle. Vous allez nous parler de vos parcours, de vos attentes aussi, de vos projets, de vos rêves, de vos inquiétudes. Parce qu'on le sait, le marché de l'emploi au Sénégal comme sur le reste du continent est compliqué. On a chaque année, je ne vais pas donner ce chiffre pour vous inquiéter encore davantage, mais c'est vrai qu'à l'échelle du continent subsaharien, on a 30 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Donc effectivement, la pression démographique rend compliquée l'insertion professionnelle. Et les économies ne parviennent pas à absorber, y compris d'ailleurs bien sûr les économies informelles, qui sont massivement informelles, ne parviennent pas forcément à vous absorber tous, tout autant que vous êtes, malgré vos formations, malgré vos diplômes, malgré vos talents. Alors néanmoins, aujourd'hui c'est une journée de l'espoir et de dialogue. On va vous donner la parole. Ndey, vous avez 20 ans, vous êtes originaire de Saint-Louis et vous êtes étudiante en licence informatique, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Cette année-ci, j'ai été élue Miss Geek Sénégal 2019. Et j'ai représenté le pays au Rwanda, à Kigali, lors d'un concours international qui regroupait 10 différents pays en Afrique. Et j'ai encore été élue 3e Miss Geek Africa 2019.
Voilà. Non, mais comment vous en êtes arrivée là, Ndey?
Ah oui. Donc, pour commencer, je vais citer Florent Yuzan, qui est ivoirien. Donc, hier, j'ai lu un article et il a dit que chaque problème d'un Africain est une idée d'entreprise. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce que le projet que j'ai présenté, ce n'était pas un projet que j'ai eu du jour au lendemain. C'était un problème, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui m'a vraiment marqué et quelque chose qui a fait que j'ai eu l'envie de trouver une solution et de la présenter au monde entier. Et je crois que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui ici et qui m'a fait gagner tous ces prix. Le problème en question, c'était, je peux dire, une amie à moi. On était ensemble depuis le primaire. Donc, elle s'est mariée il y a à peu près 2 ans. Donc, je suis allée à son mariage, nous étions très proches. Et l'année suivante, quand je suis arrivée à l'université de Thiès, on m'a appelée une nuit pour me dire qu'elle était décédée en donnant la vie. Alors, j'ai demandé les causes, puisque j'étais très marquée et que c'était mon amie. Les causes, c'était que pendant son accouchement, elle avait perdu énormément de sang. Et c'était accentué par un hôpital avec une banque de sang à sec. Alors, je me suis jurée de trouver une solution à ce problème, puisque avec des études bien approfondies, je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus grave et que à peu près 14 millions de cas d'hémorragie sont signalés chaque année dans le monde et que 500 000 femmes en meurent chaque année en Afrique. Je ne pouvais plus supporter ça, moi en tant que femme, en tant qu'Africaine. Alors je me suis lancée dans le projet avec un ami du nom de Elhaj Ibrahim Faye en master informatique. Nous avons initié le projet SOS 100 que nous avons présenté au Sénégal et à Kigali.
Qui est une plateforme numérique hein, où vous recensez les donneurs et ensuite c'est accessible pour les hôpitaux. Ndaye, vous n'avez que 20 ans. Comment vous envisagez la suite ? À l'université ou déjà chef d'entreprise ?
Les deux. Je ne compte pas laisser mes études pour embrasser le milieu de l'entrepreneuriat. Ce sont des choses qui se complètent. Alors, je compte bien terminer mes études. Mais ça ne veut pas dire que je vais attendre de terminer mes études pour entrer dans le milieu de l'entrepreneuriat, étant donné que je suis déjà. Donc, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez du parcours de Ndaye ? Qui veut intervenir là dans les coachs ?
Oui, moi j'aimerais bien réagir là-dessus pour dire que la dimension de « en même temps » me semble très importante et quelque chose qu'il faut faire. Bon, vous riez parce que peut-être votre président Emmanuel Macron est supposé être un adepte du « en même temps ». Mais le « en même temps », c'est quelque chose au Sénégal et plus largement en Afrique auquel, dès très jeune, on est habitué. Je veux dire, les jeunes filles, elles vont aller à l'école, mais elles vont quand même s'occuper de tâches ménagères dans la maison et faire la cuisine. Peut-être pas tous les jours, mais elles vont le faire. On a des enfants qui vont à l'école dite française parce qu'elle se donne en français, mais qui vont à l'école coranique en même temps. Quand on est dans un milieu comme Dakar ou Thiès, qu'on est Poulard ou Diola d'origine, on va parler sa langue maternelle, mais on va parler le Wolof qui est la langue dominante et on va parler une troisième langue qui est le français. C'est-à-dire qu'à 6 ans, 7 ans, on est déjà trilingue. Donc moi, je veux vraiment l'encourager à mener de front et ses études et l'entrepreneuriat. Je veux terminer par une chose. À CETIC Dakar, l'incubateur où je suis, le directeur Raymond Mendy est par ailleurs directeur, en tout cas créateur d'une entreprise. Et parmi les 3 personnes de l'équipe
senior... Et vous-même
senior,
aussi, vous-même
oui,
aussi d'ailleurs.
Oui, moi-même et quelqu'un d'autre, nous avons des entreprises.
Une entreprise de communication.
C'est cela.
Ouais.
Donc c'est pour dire que c'est possible de cumuler.
Donc, les étudiants sénégalais, génération 2019, champion du « en même temps ». Vous êtes d'accord avec ça ? On va donner la parole à Mansour Diène, qui est en génie civil, géomètre, spécialité géomètre, topographie. Bonjour Mansour.
Bonjour.
Vous êtes en génie civil, spécialité géomètre topographe. Vous avez 25 ans, vous êtes diplômé dans combien de temps ?
Dans une année.
Je sais que vous avez une inquiétude en particulier, Mansour.
Bon, la première question, c'est par rapport à Ariel. Comment le numérique impacte-t-il dans la gestion du projet ? Je dirais que dans tout ce qui est informatique, je ne me vois pas bien outillé pour pouvoir vraiment l'incorporer dans ce que je fais vraiment.
Et est-ce que ça va être incontournable dans ce métier-là ? Est-ce que ce métier-là aussi va être révolutionné par le digital ?
Absolument, parce qu'aujourd'hui, on a d'ici 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et l'intelligence artificielle est en train de muter les métiers. Je parlais avec Mam tout à l'heure qu'on a des robots qui sont chefs d'orchestre, on a des voitures autonomes, on a des drones qui font des livraisons de médicaments, on a même des machines qui permettent de mesurer les habits sans les porter. Donc vraiment, il n'y a aucun domaine qui est exempt de la mutation du numérique aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'on conseille à Mansour ? Parce qu'il est bien formé sur son cœur de métier, mais il manque une partie.
Donc, il a deux choix. Il y a des sites de e-learning sur lesquels vous pouvez aller trouver. Si vous tapez « Top best tool in topology or geography », vous allez trouver des outils, déjà des études comparatives sur les meilleurs outils à utiliser dans votre domaine. Ou alors, vous vous rapprochez des spécialistes du domaine d'informatique avec qui vous pouvez créer de la connaissance. Et ce qui est intéressant, justement, c'est ces outils qui sont créés de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient de l'informatique et quelqu'un qui vient du domaine de la géographie, de la topographie, arrive à créer des logiciels ensemble. Parce qu'à la fin, l'informatique pour l'informatique ne sert à rien. Mais l'informatique appliquée à un domaine, c'est ça qui crée de la valeur, en fait.
Deuxième question, Mansour.
Deuxième question, c'est pour Mme Kafa. Donc, elle est coach en leadership et développement personnel. Donc, moi, je me dis que ce soit dans la recherche du travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat, vraiment s'imposer devient une nécessité. Donc, dans ce cas, moi, je la demande, qu'est-ce qu'un leader vraiment pour vous?
Aujourd'hui, quand on parle de leader, les gens pensent que c'est quelqu'un qui doit être le numéro un ou bien c'est quelqu'un qui est un chef. Mais le leadership, en fait, c'est quelque chose qui se manifeste à travers nos attitudes. Parce que le leadership, à la base, c'est de l'influence. Et pour influencer, c'est juste avoir les bonnes attitudes. Celle qui, tout à l'heure, a parlé de son parcours...
Day, Miss Geek Sénégal.
Ouais, Miss Geek Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, elle va influencer la majeure partie de la salle. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est leader, en fait. À travers ce qu'elle fait, à travers ses attitudes, à travers les résultats qu'elle arrive à produire, elle est leader dans son domaine.
Est-ce que tout le monde peut devenir leader? Est-ce qu'il faut que tout le monde devienne leader?
En fait, être leader, c'est comme être un parent. On a les capacités d'être parents, mais nous tous, on ne peut pas être des bons parents. Et nous tous, on ne doit pas être des parents. Donc le leader, c'est pareil en fait. On a les capacités, nous tous, d'être des leaders, mais on ne peut pas être tous des leaders et on ne doit pas tous être des leaders en fait.
Ou l'être à certains moments de notre vie peut-être, mais pas tout le temps aussi.
Ah oui.
Monsieur Nargueil, là-dessus, sur la notion de leadership.
Ce que je conseillerais, c'est d'avoir d'abord du leadership ou de travailler à l'avoir. Et dans l'environnement sénégalais et francophone où nous vivons, le mot leadership et le mot leader, c'est quelque chose par rapport à quoi nous avons, en tout cas dans l'ancienne génération à laquelle j'appartiens, avec laquelle nous avons un peu de réticence. On a l'impression que c'est une création anglo-saxonne qu'ils veulent imposer au reste du monde. J'étais surpris, j'écoutais le premier discours de Léopold Sédar Senghor à l'indépendance. Il a trouvé le moyen de caser le mot leader dedans, alors qu'on ne peut pas dire que ce soit un anglophile très réputé, feu Léopold Sédar Senghor. Mais je pense qu'il faut travailler d'un point de vue de développement personnel à avoir le contrôle sur sa vie et sur ce qu'on fait de sa vie. Je crois que d'avoir des petits outils comme une to-do list qu'on fait la veille, c'est important. Mais je dis... C'est à vous de créer vos propres opportunités qui feront peut-être que les gens qui ont des attentes légitimes envers vous soient rassurés que vous pouvez aller vers la voie de l'entrepreneuriat.
On va enchaîner avec Sorna qui est en troisième année de génie civil.
Bonjour, Emmanuel.
Bienvenue chez 7 milliards de voisins.
Merci.
Donc ton parcours, hein, c'est le génie civil, tu veux te tourner donc vers l'entrepreneuriat, vous êtes un groupe de 5 amis étudiants.
Effectivement.
Et vous voulez lancer votre boîte.
Effectivement.
De location de véhicules utilitaires pour le BTP.
Effectivement.
Tu as une question précise?
Effectivement, nous avons une question précise parce que la plupart des jeunes d'entre nous, c'est vrai que nous avons des projets d'entrepreneuriat, mais c'est difficile de savoir les différentes étapes qu'il faudrait respecter pour pouvoir créer une entreprise qui marche. Parce que il faut le noter aussi, nous avons remarqué que par rapport aux chiffres, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont jeunes, qui commencent et au bout d'un an, ils font faillite la plupart du temps. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui est incomprise dans la méthode et la méthodologie, les différentes étapes à suivre. Donc si vous pourriez clairement nous expliquer par rapport à ça pour éviter de faire faillite aussi.
C'est important de temps en temps de prendre en compte en fait que l'échec ça fait partie en fait du parcours. C'est comme un joueur de foot qui est sur le terrain, il ne peut pas se dire qu'on ne va pas le cogner de temps en temps. Mettre la clé sous la porte un an après ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebondir. Parce que de temps en temps il faut que des fois, voilà, que l'entreprise puisse avoir des difficultés à faire du chiffre, qu'on puisse se casser la tête pour voir quelle est peut-être la prochaine étape ou bien comment faire pour décrocher certains marchés, c'est très très important. Être étudiant et entreprendre, je pense que c'est une chance en fait qu'il faut saisir. Il faut même pas attendre. Parce qu'à cet âge-là, on a la possibilité de, voilà, d'échouer, de tomber, de se relever rapidement et de pouvoir continuer. Et on a moins de charges, je pense qu'on n'a pas encore d'enfants, on n'est pas encore marié.
Sauf que monter une entreprise de location de véhicules utilitaires, forcément, il faut mettre de l'argent au départ, ou en tout cas en trouver.
C'est possible, mais il y a une autre option. Aujourd'hui, elle peut avoir des fournisseurs. ou bien elle peut aussi commencer par la sous-traitance.
Je vais prendre l'exemple de Uber. Uber qui est la plus grosse entreprise de location de voitures et qui n'avait pas de voiture. Elle n'a pas besoin d'avoir des véhicules. Elle n'a même pas besoin d'avoir des clients. Elle se place juste au milieu et développe une application mobile. Elle travaille correctement sur la communication. Et quelqu'un dit qu'il a besoin de véhicules utilitaires. OK, vous téléphonez à l'autre de l'autre côté et puis vous faites votre business au milieu. Maintenant, une entreprise qui marche, ça dépend du type d'entreprise. Il y a les entreprises sociales également qui, pour elles, se définissent par l'impact. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément le gros chiffre d'affaires qui est le plus important, mais c'est quel impact qu'ils ont derrière. Et ça, c'est par exemple ce que moi, je fais, même s'il faut qu'on dégage assez de marge pour pouvoir nous refinancer. Et par rapport aux différentes étapes, la première chose, c'est la passion. Parfois, on entreprend pour des mauvaises raisons. Beaucoup de personnes entreprennent aujourd'hui par mimétisme. Tout le monde veut être CEO d'eux. Ils trouvent que c'est catastrophique. Il faudrait que les personnes se posent les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Quel problème je veux résoudre? Qu'est-ce que je veux apporter comme valeur? Quand on a quelque chose qui nous porte vraiment à cœur, on peut tomber et se relever grâce à cela. Ensuite, il faut avoir des compétences. Ça ne sert pas juste d'avoir de la passion. C'est être un pet driver. Il faut avoir la compétence dans le domaine dans lequel on s'engage, ou alors bien s'entourer avec des personnes qui ont ces compétences-là. Ensuite, il faut avoir un moral, un mindset fort, parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent un peu ramé à contre-courant. Pendant que les camarades vous disent, moi j'ai un salaire de 1 million, de 600 000, qu'est-ce que tu fais dans l'entrepreneuriat? Tu n'arrives même pas à payer tes emplois, tu n'arrives pas à te payer. Il faut être fort moralement, se dire que la route de la réussite est parsemée d'embûches. Et comme on dit, le fighting spirit, c'est comme un muscle, de la même manière que vous musclez votre avant-bras, il faut muscler
votre mental.
Et ce n'est que
vos motivations.
Une fois que vous avez la passion, les compétences, le mindset, que vous commencez à vous poser la question, il me faut de l'argent en fait.
On passe la parole à d'autres étudiants qui sont dans la salle. Mamadou, vous êtes dans l'hôtellerie.
Bonjour.
Bonjour Mamadou, vous êtes en licence 3 hôtellerie.
Oui.
Comment ça se passe?
Voilà.
À l'université de Thiès.
D'abord, je vais commencer par vous dire que ma vie a eu une nouvelle tournure depuis que je faisais la première. J'ai une tante qui vit en France. Elle avait comme projet de m'emmener continuer mes études en France, également de faire du boulot, etc. Elle a eu à parler de ça à mes parents et mes parents m'ont mis au parfum après qu'elles aient à employer beaucoup de démarches pour que j'aille en France. Maintenant, à la fin de l'année, de ma première, je n'avais pas obtenu le visa. Également, je faisais la terminale et j'ai échoué au bac.
C'est l'année difficile.
La nuit, je me suis dit que je n'ai pas obtenu de visa. Je n'ai pas eu le baccalauréat. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est cette question-là qui a réglé quelque chose en moi. Et lorsque j'ai repris la classe de terminale, j'étais un peu perdu. Je me disais que, je n'ai pas quelque chose à prouver en classe, je vais attendre le bac, etc. Mais on avait eu un cours de EPS, éducation physique et sportive. Notre professeur, M. Ndiaye, nous avait demandé de faire une planification de notre année, ainsi qu'après avoir obtenu le baccalauréat. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me découvre de plus en plus. Et après, j'ai décidé, dans ce planning-là, d'aller à l'université. On ne m'a pas orienté pour que j'aille à l'université et ce n'était pas venu au hasard. Mais j'avais décidé d'aller à l'université et de découvrir, d'avoir le diplôme et de m'engager dans une activité. Et de là...
Aujourd'hui, tu es content d'être resté au Sénégal?
Oui, je suis hyper content de rester au Sénégal parce que de plus en plus, je me découvre et je sens que je suis né entrepreneur.
C'est ton prof de sport qui t'a révélé à toi-même. Tu étais dans quelle ville à ce moment-là?
Rufisque.
Tu étais à Rufisque.
Oui.
Alors aujourd'hui, tu es dans l'hôtellerie.
Oui.
Et tu es un peu à la croisée des chemins finalement, hein,
voilà.
En licence 3.
Moi, en fait, mon souci, c'est quoi? Primo, j'ai réfléchi toujours avant de prendre une décision responsable. Segundo, j'écoute sans juger les avis utiles. Et quand je me lance, naturellement, je m'implique à fond. C'est peut-être ce qui fait ma personnalité, en fait. Maintenant, quand j'entre dans le tourisme, je me suis dit que beaucoup d'individus ont eu à me décourager. Mais en me disant que le tourisme ne marche pas au Sénégal, je me suis dit que pourquoi pas m'investir dans ce domaine et enfin apporter quelque chose de considérable et de remarquable pour essayer notre pays dans le niveau mondial.
Et ta question, alors, Mansour?
Oui, merci. Ma question est la suivante. Maintenant, je suis en licence 3, j'ai bientôt terminé ma licence, mais je sens que je n'ai pas assez d'outils et de compétences pour m'engager dans une aventure audacieuse. La question que je vous pose, c'est est-ce que je dois faire pied du nez des études, aller risquer ou bien continuer et après avoir obtenu le master et avoir fait des expériences et autres, de me lancer dans une aventure audacieuse?
sur la question de l'entrepreneuriat.
Où c'est nous, Nargueil?
À un jeune âge. Moi, je veux vous dire, il y a quelqu'un qui est l'un des plus grands milliardaires du monde, dont nous sommes tous les clients et le produit qu'il vend à la fois, c'est Mark Zuckerberg avec Facebook. Il n'est jamais allé au bout de ses études. Il a commencé Facebook étudiant. Il a continué à faire des versions upgrade jusqu'à ce qu'il ait la version qu'on a aujourd'hui et qui continue de changer. Vous avez peut-être besoin d'un financier qui va monter des dossiers pour aller parler à la banque. Vous avez peut-être besoin d'un comptable pour bien gérer la trésorerie. Et vous n'avez pas dans la poche de quoi le payer. C'est peut-être le moment de penser à ouvrir votre capital ou à, pour leur en donner des parts, des actions, ou alors à avoir un type de structure juridique qui fait que tout le monde s'y retrouve et que quand on gagne 100, les gens sont d'accord de ne être rétribués que sur 100, mais avec l'ambition que quand on gagnera 10 000, eux aussi, leur rétribution avancera. Je crois que d'avoir l'opportunité d'entreprendre quand on est encore en situation d'étudiants, ne pas avoir de charges d'enfants, de charges de conjoints, comme vous disiez, c'est une chance qu'il faut saisir.
Tell me, Walkman, dis-moi, Yomloy Khalat. Tell me, Walkman, dis-moi, Yomloy Khalat. Chéri boy, chéri boy, beguma, beguma, ngay khalat. Chéri mon amour, ne te fais pas de soucis. Oh my God.
C'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se sépare.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est sur RFI et on a la chance d'être à l'université de Thiès avec les voisins, les voisines, les étudiants, les étudiantes qui nous accueillent pour parler de leur avenir. Merci encore. Allez, on continue ce dialogue avec les coachs, des experts d'incubateurs, des experts en informatique, en développement personnel. Et puis vous, les étudiants, vous avez du talent, mais vous êtes à un âge où forcément on se pose beaucoup de questions et vous avez besoin d'avoir des conseils. On donne la parole à Noumounti, qui est diplômée depuis maintenant 9 ans de l'université de Thiès, qui est venue participer au débat. Noumounti, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les voisins. Et bonjour à tous et bienvenue chez nous. Je me considère étant chez moi parce que ça fait déjà 9 ans que je ne suis pas revenu à l'université, revenu en tant que professionnel, mais quand on quittait, il n'y avait pas tout ça.
Donc on pas, était, tout ça. Pas tout non. Ça, ils sont plus de 500 non. Là dans la salle.
Alors là, je commencerai par dire que c'est une surprise pour moi et qu'ils sont vraiment gâtés. Tous vos voisins, ils sont vraiment gâtés parce que quand on démarrait l'université de Thiès, je dis quand on, parce que je fais partie de la première promotion et que je rencontre tous mes professeurs, les directeurs de la scolarité, tout le monde. Et ça fait chaud au cœur de revoir tout ça.
Ouais, je confirme, hein, parce que j'étais aussi en reportage il y a 10 ans à l'université de Thiès qui venait d'ouvrir. Il y avait du sable, des cailloux et beaucoup d'étudiants qui râlaient.
Super, et beaucoup de restaurants qui étaient des salles de classe.
Oui, c'est super. Ça.
Alors, je dis ça et je dis rien. Alors, je suis actuellement serial entrepreneur pour avoir créé une entreprise dans le digital depuis 5 ans déjà, qui s'appelle Genius Family, pour avoir créé aussi un espace de coworking, un espace de travail collaboratif pour tous les entrepreneurs et les étudiants qui veulent s'y investir.
Donc vos clients, ce sont les entrepreneurs?
Pour l'espace de coworking, oui.
C'est ça.
Ce sont les entrepreneurs
les
qui veulent
qui
se lancer.
Se lancent et qui ont besoin de bureaux et qui viennent chez vous.
Justement.
D'accord.
Qui ont accès à toutes les commodités d'une entreprise et que justement on essaie de faire sauter cette étape où il y a la peur de dire je ne suis pas crédible, je ne sais pas faire ceci, je n'ai pas les compétences, etc.
Est-ce que vous avez après votre diplôme en génie civil, en génie informatique, vous avez la licence et le master, est-ce que vous avez commencé à travailler d'abord dans des entreprises?
Alors, j'ai commencé à travailler après la licence, avant de faire le master. Donc, entre le master, en même temps que je faisais le master à Dakar, je travaillais encore.
Oui, histoire de renflouer un peu vos finances, hein,
justement,
c'est ça.
Justement, c'était un peu...
Parce qu'il y avait la famille quand même qui disait les études, ça coûte cher.
Oui, un peu. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup aidé. Et aussi des professeurs qui m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, pour rassurer certains étudiants, à la sortie de l'université, j'ai beaucoup embêté Madame Diop pour trouver un stage. Parce que c'est le modèle classique, en fait. Quand tu as fait ta licence, tout le monde a trouvé un stage parce que tout le monde a un stage. Il faut trouver un emploi parce que tout le monde a un emploi. Mais ce n'est pas vraiment pour tout le monde. Je ne dis pas que tout le monde peut aller entreprendre. Mais ce n'est pas vraiment donné à tout le monde d'aller se poser en entreprise. Moi, pour mon expérience personnelle, je me suis ennuyé en entreprise. Parce que je me suis... Oui. Je me suis totalement ennuyé, du coup j'ai démissionné.
Et pourquoi ?
J'étais sous-employé. Tout ce qu'on m'a appris, tout ce que mes professeurs m'ont appris, je n'arrivais pas à l'exprimer en entreprise. Donc finalement j'ai dit je suis bien payé et tout, mais je n'arrive pas à faire ce que j'ai besoin de faire. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de changer la vie de quelques-uns dans ma région. C'est ce que j'avais besoin de faire. Et je n'y arrivais pas. Et je n'y arrivais pas à l'entreprise parce que, comme vous le connaissez tous, il y a plus des soucis de business. Donc moi, j'ai décroché complètement, c'était fou, c'était complètement débile de dire « Ok, tout le monde cherche un travail, moi j'en ai, j'en veux plus. Et je veux recommencer à zéro. » Parce que j'avais besoin de cette passion de dire « J'ai changé la vie de quelqu'un. » Parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la technologie, on peut s'insérer partout. Que ce soit dans la médecine, dans l'agronomie, etc. Mmh. On essaie d'apporter des solutions.
Comment vous avez fait pour démarrer ? Certains, vous aviez un peu d'expérience professionnelle en entreprise, vous avez été soutenu par vos profs, vous avez été soutenu par votre famille autant qu'elle le pouvait. Vous avez été incubé au CETIC ?
Oui, mais avant tout ça, j'ai démarré à l'université. Parce qu'à l'université, on avait remporté le premier prix du développement mobile au Sénégal. C'était en 2010. On a remporté le prix national pour justement pour rejoindre Ariel, pour apprendre aux enfants dans les écoles maternelles et dans l'école primaire à compter et à apprendre les chiffres et les lettres. Depuis, à cette époque, on s'est dit il est possible pour nous de faire quelque chose. Alors, pour les enfants, pour l'école, alors pourquoi pas pour les autres ? Ça a démarré à partir de là. Et après, quand on a eu plus d'expérience en entreprise, on s'est dit, on va se lancer. J'ai pris mes clics et mes claques et j'ai rejoint CETIC. Et j'ai trouvé une équipe superbe qui m'a beaucoup aidé.
Parce que vous avez été sélectionné aussi.
Oui, oui, ça c'est vrai. C'est pour dire qu'en fait, nous, vous n'avez pas d'alibi du tout. Parce que le business que je suis en train de faire tourner aujourd'hui a commencé derrière cette université, dans un tout petit marché qui s'appelle le marché Moussente, que tout le monde connaît à Thiès. Alors, c'est une solution qui aujourd'hui a démarré à Moussente, dans un petit marché avec de petits commerçants, qui aujourd'hui est déployée dans toute la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Gambie, etc. et qui est utilisée sur le cloud, qui est une solution de gestion commerciale.
Aujourd'hui, vous êtes mentor auprès de jeunes, vous êtes le grand frère, vous avez un rôle modèle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux étudiants qui sont venus ici? L'amphi est pratiquement plein à l'auditorium de Thiès.
Alors j'ai envie de dire qu'il faut qu'ils se rapprochent de Ariel pour arrêter de conjuguer les verbes au futur. Simplement. Pourquoi? Parce que je les entends toujours dire « je vais faire », « j'ai envie de faire », après « je vais faire », mais faites. Faites-le maintenant. Ce que vous avez envie de faire, vous avez le potentiel pour le faire. Si vous êtes des développeurs, si vous êtes des ingénieurs agronomes, si vous êtes des ingénieurs en topographie, tout ce que vous voulez, ce dont vous avez envie de faire, vous avez les capacités pour le faire, alors faites-le. Vous n'avez pas d'alibi du tout. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez été bien formé et vous avez le marché qui commence par le marché de Thiès. Donc je pense qu'ils n'ont pas d'alibi du tout. Alors, je terminerai juste peut-être par leur donner des astuces pour commencer. De l'expérience, c'est bien. On peut, il faut en chercher en entreprise, aller, même le fait d'aller demander de l'emploi, il y a une manière de le faire. Mme Kafa ne me contredira pas. On ne peut pas aller demander de l'emploi en faisant le mendiant, ça ne marche jamais. Parce que vous êtes là pour renforcer une ressource humaine, vous êtes là pour apporter des compétences. Vous n'êtes pas là-bas pour apprendre, vous n'êtes pas des mendiants, vous êtes là-bas pour donner.
Et parce qu'ils sont bien formés à l'université.
Oui.
Ça aussi, il faut peut-être le faire passer comme message aux entrepreneurs qui ont tendance à dire oui, dans l'université, ils ont des compétences, ok, ils ont appris des choses, mais pas très adaptées à mes besoins en tant qu'entreprise.
Ça rejoint encore la Libye dont je parlais tout à l'heure.
C'est à ce sujet, Ariel Kitio. Parce que justement, je crois que la plupart de nos universités sont dans le système LMD où l'étudiant a une responsabilité de prendre le plein pouvoir sur sa formation. Donc, il faut également que les étudiants arrêtent de se victimiser en disant « on m'a pas appris ça à l'école ». Il y a Internet et sur Internet, il y a tout. Donc, nous avons cette responsabilité d'aller chercher la bonne information. Il y a des sites de e-learning qui sont complètement gratuits sur lesquels les gens arrivent à être autodidactes sur des technologies de pointe. Donc, vraiment, c'est, même si ce n'est pas complet à l'université, il y a de quoi compléter sa formation sur Internet.
Il y a des tonnes de choses qu'on n'apprend pas à l'université. En fait, l'université n'a pas vocation à vous apprendre certaines choses. On vous apprend les briques, les fonctions, toutes les méthodologies dont vous avez besoin pour créer.
Notre ami géomètre, là, quand même, s'il avait eu un petit topo sur le numérique pour compléter sa formation de géomètre, ça serait pas mal, non ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais encore faudrait-il que, comme Ariel l'a dit, la vie de l'étudiant est faite de discipline. La discipline, en 2019, commence par la recherche. La recherche, ça veut dire que j'ai besoin de... je me suis retrouvé dans un monde où tout devient robotisé, tout devient numérique, etc. Mais pourquoi pas aller au-delà de ça, essayer de voir tout ce qui se fait dans ce monde. Le monde ne se limite pas au Sénégal, il y a la Chine, il y a... Essayez de retrouver en fait ce que vous êtes en train de faire, ce qui se fait partout dans le monde. Essayez de faire du copier-coller et modifier.
Et de créer des communautés.
Justement,
d'accord.
C'est ça.
Je vais vous donner le mot de la fin à tous les trois, Mamka Fassal. Quel est le regard que vous portez sur ce que vous avez chez les étudiants ?
En fait, je pense qu'il vient de dire quelque chose de très, très important. Dans ses propos, je retiens deux choses. Il a parlé de la confiance en soi. Il a dit que quand vous allez en entreprise, vous y allez avec vos compétences, en fait. Vous n'y allez pas avec la tête vide. La deuxième chose, c'est le travail à faire sur soi. Je pense que depuis ce matin, on en a parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, pour faire passer votre carrière à une autre étape, c'est le travail à faire sur soi, en fait, qui le permet. Et aujourd'hui, on n'a plus d'alibi, hein, comme il disait. On a juste besoin de décider de sortir de notre zone de confort pour pouvoir passer à une autre étape de notre vie. Il y a aussi la recherche d'information, parce que si on n'a pas l'information, on ne peut pas savoir que dans notre domaine, aujourd'hui, on peut par exemple créer une application, ou bien il y a une personne qui est de l'autre côté qui arrive à faire des choses exceptionnelles dans le même domaine. Donc du coup, c'est important aujourd'hui de pouvoir rechercher l'information. Le mot de la fin, c'est juste en fait que pour entreprendre, c'est important d'avoir un mental d'acier. Si on a un mental d'acier, on a plus de facilité à sortir de sa zone de confort, à engager des actions et entreprendre. Et voilà.
Ils ont le mental d'acier dans l'amphithéâtre, là, aujourd'hui, vous trouvez ?
Est-ce que vous avez le mental d'acier ?
Oui !
Non, mais je pense que des gens qui ont le mental d'acier, le oui doit être beaucoup plus, plus fort, quoi.
Oui !
Est-ce que l'université de Thiès a un mental d'acier ?
Oui !
C'est très bien.
Ousseynou Narguey, on a longtemps dit que les étudiants de l'université étaient moins bien armés que les diplômés des écoles privées, par exemple. Aujourd'hui, quel est votre regard et puis surtout votre conclusion par rapport au débat avec ces étudiants ?
Moi, j'ai le sentiment que les étudiants des universités ont beaucoup plus de maîtrise sur les compétences techniques qui leur sont fournies et apprises que les étudiants, par exemple, des instituts privés de formation, des écoles de commerce, il y en a énormément. Je crois qu'en tant qu'étudiant qui venait du système public, c'est peut-être plus dur d'arriver, la maîtrise s'appelle plus comme ça, ça s'appelle un master, d'arriver à ce niveau-là. Mais je crois que quand vous en sortez, vous êtes en capacité de fournir ce qu'on vous demande, en tout cas sur le marché de l'emploi et dans les entreprises. Mais il y a des choses qu'on vous demande dans l'entreprise que vos confrères, vos pairs des écoles de commerce ont et que vous n'avez pas souvent, c'est que vous ne savez peut-être pas suffisamment vous vendre en termes de tchatch, en termes de présence, en termes de courtoisie. Quand vous faites une demande d'emploi ou une demande de stage, quand je vois des gens envoyer un mail dans lequel il y a leur CV, où déjà il n'y a pas beaucoup d'expérience, ils balancent le CV comme on balance un hameçon dans le fleuve pour attraper un poisson. Des fois, il n'y a même pas d'objet, ou alors il n'y a pas trois lignes dans le corps du mail. Je veux dire, personnellement, et nous sommes nombreux à réagir comme ça, vous pourriez être Einstein, on ne va même pas regarder votre demande. Quelque chose qui vaut la peine d'être faite, elle vaut la peine d'être bien faite. Et ce sur quoi je voudrais terminer, moi je vous demande d'avoir de l'agilité aussi bien dans vos choix professionnels et de carrière. Tout ça finit par avoir une cohérence au bout, mais soyez agiles. L'agilité, ça demande du sens de l'écoute et de l'adaptation. Voilà Merci. Ce que je voulais dire. Merci
pour l'image, Ousseynou Narguey. Ariel Kitio, vous avez le mot de la fin de l'émission, vous qui êtes camerounaise, qui avez fait un long chemin pour venir parler aux étudiants sénégalais à l'université de Thiès.
La communication est essentielle. Combien parmi vous a un compte LinkedIn ?
Un compte LinkedIn ?
Un compte LinkedIn.
Combien a un compte LinkedIn ? À peine un quart de main qui se lève.
Je vous invite tous, en sortant d'ici, de prendre une jolie photo, de créer un compte LinkedIn et de renseigner vos compétences dessus, premièrement. Je vous invite à écrire des articles régulièrement sur ce que vous faites, parce que nous sommes au monde du digital. Si on ne vous voit pas sur la toile, ça veut dire que vous n'existez pas, point à la ligne. Donc, il faut travailler votre communication sur le digital. On a un réflexe, quand quelqu'un vous dit qu'il a fait quelque chose, vous allez sur Internet, vous regardez. Si vous ne trouvez pas, vous dites que c'est faux, n'est-ce pas ? Donc, vous devez travailler votre communication sur le digital, travailler la manière de vous vendre. Et je vais insister sur le digital et le numérique, pas parce que c'est mon métier, mais parce que c'est devenu la chose la plus transversale de nos jours. Que vous soyez topographe, vous faites de l'hôtellerie, vous voulez être interprète, vous devez avoir des compétences de base dans le numérique, parce que avec ou sans vous, les métiers sont en train de changer. Et si vous êtes la victime, si ne vous y jetez pas, vous serez surpris de voir que d'ici 5 ans, le métier pour lequel vous vous projetez n'existera plus. Être surtout créatif, parce que le plus important, c'est pas de maîtriser PowerPoint, de maîtriser le Bitcoin, de maîtriser la réalité virtuelle. C'est d'être créatif pour que lorsqu'il y a un nouvel outil qui arrive, que votre esprit soit assez agile pour pouvoir le prendre en compte et l'adapter à votre métier. Donc, la passion, le mental d'acier, la communication et surtout la résilience. Voilà.
Merci Ariel Kitio. Kaisti, le logiciel pour apprendre à coder, logiciel très intuitif, fait pour les enfants, version Wolof. Dans combien de temps maintenant ?
À partir de septembre, vous aurez ABC Code en Wolof. Tous vos enfants pourront coder, créer des robots, créer des logiciels entièrement en Wolof.
Ouais, pour les petits frères et les petites sœurs qui arrive ensuite à l'université de Thiès. Merci à vous tous, les étudiantes et les étudiants à l'université de Thiès. Merci Ariel Kitio, Mame Kafassa, Ousseynou Narguey, et merci bien sûr à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Victor Hull, Delphine de Dianou, Sigrid Azerwal, Arthur Tosou. Vous retrouvez toutes les vidéos de Cyril Etienne sur cette rencontre sur nos réseaux sociaux. Merci aussi à toute l'organisation de l'université de Thiès, Marie Saug, responsable de l'incubateur de l'université de Thiès, qui a orchestré cette rencontre. Demain, 7 milliards de voisins, retour dans le studio de Paris. C'est Samira Ibrahim qui présente l'émission sur RFI, qui propose de vous exprimer sur les initiatives citoyennes. Peuvent-elles changer le monde ? Et je redonne le numéro du standard. Évidemment, c'est pour vous aussi les étudiants. 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le serveur WhatsApp. À bientôt les voisins et les voisines à Thiès.